France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Clotilde Le Guil.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour poursuivre ensemble notre voyage à travers l'inconscient, depuis les rêves, les cauchemars, mais aussi depuis le sentiment d'étrangeté. Vous vous souvenez de ce mot que Freud emploie, « l'unheimliche », pour décrire cette expérience d'une inquiétante étrangeté, cette expérience d'un phénomène bizarre qui se produit dans notre existence et qui peut nous confronter au sentiment d'être comme dans un rêve. Freud a hissé cette expérience au rang de manifestation de l'inconscient. Il l'a nommée donc « l'unheimliche » pour nous faire apercevoir ce qui nous était le plus familier, « heimlich » en allemand, le plus connu, et qui peut, l'espace d'un instant, devenir étrangement lointain. Unheimlich. Comme si au cœur du plus familier, il y avait aussi quelque chose d'étranger, que nous n'apercevons pas mais qui vient à surgir alors que nous n'y faisons pas attention. Dans ces moments-là, on se sent ridiculement perdu, comme si on redevenait un enfant qui ne trouve plus son chemin. C'est cette expérience que l'on peut faire, par exemple, lorsqu'on dort dans un lieu qui ne nous est pas familier. On se réveille dans l'obscurité de la nuit, on se lève, on cherche la porte pour sortir de la chambre, on cherche l'interrupteur pour allumer la lumière, mais on n'y voit rien. On se heurte pour la 10e fois au même meuble. On ne trouve pas ce qu'on cherche. On avance à tâtons dans le noir et c'est comme si on perdait tous ses repères. Qui n'a pas fait cette curieuse expérience ? Moment d'inquiétante étrangeté. Point de bascule dans le rapport à la réalité. Je ne reconnais plus le réel, je ne sais plus où je suis. Après vous avoir guidé sur ces chemins entre rêve et réel, autour du sentiment d'étrangeté, je répondrai aux questions que vous m'avez adressées suite à l'écoute de cet épisode en podcast. Notez que nos prochains épisodes sont déjà en ligne et que vous pouvez nous laisser vos questions sur la page L'Inconscient sur franceinter.fr, mais aussi sur notre répondeur au 01 56 40 64 04.
L'Inconscient avec Clotilde Le Guil sur France Inter.
Savez-vous qu'après Freud, Lacan témoigne aussi d'une de ses expériences d'étrangeté ? Lacan ne nous confie pas beaucoup de rêves au cours de son enseignement. Mais toutefois, ici et là, il livre un petit détail personnel qui surgit comme une pépite à ramasser au milieu d'une démonstration théorique. C'est ce qu'il fait, par exemple, dans une leçon sur l'inconscient en 1964, lorsqu'il nous rapporte un moment d'étrangeté qu'il a rencontré lui-même au réveil. Voici ce que dit Lacan. L'autre jour, n'ai-je pas été éveillée d'un court sommeil où je cherchais le repos par quelque chose qui frappait à ma porte dès avant que je ne me réveille ? C'est qu'avec ces coups pressés, j'avais déjà formé un rêve. Un rêve qui me manifestait autre chose que ces coups. Voilà ce que nous confie Lacan. Il se sent comme « knocked », dit-il en anglais, « sonné », sous le coup du réveil. C'est à nouveau une drôle d'expérience que fait là Lacan. Une expérience qui s'apparente à un dédoublement. Lacan nous confie finalement que l'espace de quelques instants, il ne sait plus bien dans quelle réalité il est. Est-il là dans son cabinet où il s'est assoupi quelques minutes ou est-il encore dans son rêve? Tout en étant éveillé, il est encore, dit-il, ce je suis d'avant le réveil. Ce je suis donc, entre rêve et réveil, nous confronte à un sentiment d'étrangeté. Vous vous souvenez du rêve de Diane Selwyn, dont je vous ai parlé lors de notre dernière rencontre, le rêve de l'héroïne de Mulholland Drive de David Lynch. Eh bien, ce rêve, il est du même ordre que le phénomène que nous rapporte Lacan. Diane, souvenez-vous, entend des coups qui sont frappés à la porte et les insère dans son rêve comme pour ne pas se réveiller.
Hey, pretty girl. Time to wake up.
Ces coups viennent des policiers qui la recherchent, mais ce sont eux, les policiers, qui frappent réellement à la porte de son bungalow alors qu'elle est là étendue sur son lit plongée dans son rêve. Mais dans le rêve, ces coups sont insérés dans l'histoire afin que Diane puisse continuer à dormir. Ces coups lui reviennent comme des coups qu'elle-même frapperait à la porte du bungalow de Dee Selwyn.
Diane Selwyn. Maybe that's my name.
Sous l'effet donc d'un dédoublement entre le je du rêve et le je qui veut continuer à dormir. Sonner. Knocked. Perdue et étrangère à elle-même. Voilà l'expérience que peut nous faire vivre l'inconscient, celle de nous faire rencontrer ce « je suis » d'avant le réveil. Tout se passe comme si nous découvrions un autre sujet en nous, qui déréalise le sujet que nous pensions être. Vous voyez comme les choses peuvent être étranges depuis la perspective du rêve? Les contours de la réalité se modifient. Je ne suis pas là où je pensais être. Je me retrouve dépaysée et même exilée de ma réalité habituelle et familière. Alors allons un peu plus loin. Et si le sentiment d'étrangeté était celui que nous pouvions éprouver au réveil, alors que le rêve, lui, nous fait rencontrer une réalité nouvelle. Et si tout s'inversait? Vous savez que, déjà, Descartes, en son temps, alors qu'il cherchait un point d'appui à la pensée et qu'il décidait d'appliquer la méthode du doute hyperbolique, s'est vu confronté à cette question. Descartes, au cours de sa première méditation, où il décide donc de douter de tout ce qui lui est jamais entré en l'esprit, se demande à un moment s'il ne se rend pas fou lui-même en s'imaginant ainsi que tout ce à quoi il croit peut être faux ou frappé d'irréalité, en imaginant finalement que tout ce qui existe n'existe pas. Ne va-t-il pas, se demande-t-il, ressembler à ces fous qui ne font plus de distinction entre ce qui existe et ce qui n'existe pas? À force de mettre en doute la réalité, ne devient-on pas fou? Mais dans un rêve, tout peut en effet sembler réel. Je peux être en train de rêver et, Descartes le note lui-même, j'y crois vraiment. Je prends pour de la réalité ce qui n'est que rêve. Et au fond, peut-être que dans sa vie, il est aussi dans un rêve. Alors comment faire? N'y a-t-il pas vraiment de marque certaine pour distinguer la veille du sommeil? La vie deviendrait-elle un songe? Descartes se demande alors s'il ne vit pas véritablement depuis toujours dans un rêve sans le savoir. Et là, le vertige le saisit. Freud, finalement, poursuit cette méditation de Descartes en découvrant à quel point les rêves les plus simples, les rêves d'enfants, se présentent comme de véritables hallucinations, c'est-à-dire des expériences auxquelles le sujet croit vraiment dans le rêve. Tout se passe comme si l'enfant croyait si bien à son rêve qu'il vivait réellement ce qui lui arrive et même qu'il en tirait une satisfaction. Wow. Vous savez que Freud aimait les rêves d'enfants. Parce que ces rêves permettent de voir à ciel ouvert le désir inconscient. Et d'ailleurs, c'est en s'intéressant à un rêve fait par sa fille Anna, lorsqu'elle était toute petite et qu'elle rêvait à voix haute dans son sommeil, eh bien c'est en s'intéressant à ce rêve d'Anna qu'il a pu confirmer sa théorie du rêve comme réalisation d'un désir. Anna faisait peut-être la sieste et Freud a tendu l'oreille sur les mots qui sortaient de la bouche de la petite fille de 19 mois endormie. Anna Freud, fraise, grosse fraise, flan, bouillie. Miam, miam. La petite prononçait dans son sommeil les noms de ses desserts préférés et elle s'en régalait, comme si le mot faisait surgir la chose. Quel festin, un festin de mots dont Freud s'est aussi régalé. Qu'est-il arrivé alors à la petite Anna pour qu'elle rêve ainsi à voix haute et qu'elle marmonne, qu'elle bafouille, qu'elle murmure ces mots doux et sucrés? Eh bien, la petite avait été mise à la diète la veille, car elle était malade. Dans son sommeil, elle prononçait les noms de toutes ces gourmandises dont elle avait été privée le jour. Elle se délectait de ces friandises qui lui ont manqué. Et elle se nomme même dans le rêve Anna Freud, comme le sujet qui désire savourer ces bonnes choses, la petite qui ne dit pas encore « je ». Freud put aisément interpréter le rêve de sa fille encore si jeune, comme la satisfaction hallucinatoire d'un désir refoulé. La petite croit réellement qu'elle est en train de manger du flan, des grosses fraises, de la bouillie. Et dans son sommeil, la petite devait voir les images de tous ses mets favoris, ses fruits rouges et ses entremets, et elle devait bien s'en lécher les babines. Ces rêves-là manifestent un désir si fort qu'il produit comme une hallucination. De voir en rêve ses mets, ses friandises, ses desserts, engendre une satisfaction réelle. Au fond, le rêve vient ici offrir à la rêveuse ce dont elle a été privée le jour, mais il lui offre si bien qu'elle y croit réellement. Ici, c'est bien un rêve qui brouille les frontières entre le réel et l'irréel. Et peut-être qu'au réveil, elle aussi, comme Lacan plus tard, s'est sentie un peu sonnée, ne sachant plus si elle avait vraiment dégusté de toutes ces bonnes choses ou si elle en avait seulement rêvé.
L'inconscient avec Clotilde Le Guil sur France Inter.
Avançons encore dans ce renversement entre rêve et réalité. Freud appelle sentiment d'étrangeté une expérience que l'on peut faire alors qu'on est éveillé, mais qu'on ne croit pas à ce qu'on vit. cela peut nous arriver. Vous savez que Freud n'hésitait pas à explorer ses propres productions psychiques inconscientes, afin de les livrer à la cause de la psychanalyse. Eh bien, en 1936, Freud est déjà vieux, 3 ans avant sa mort, il écrit une lettre à son ami Romain Rolland pour l'anniversaire de celui-ci. Dans cette lettre, alors que Freud donc est déjà un vieil homme, il se souvient d'une expérience curieuse survenue dans son existence 20 ans plus tôt. Mais cette expérience, il ne l'a pas oubliée. Elle est restée gravée en lui. Il confie alors à son ami ce souvenir de ce qu'il a rencontré comme ce qu'il appelle une sorte de sentiment d'étrangeté. Un sentiment de déréalisation. Voici ce qu'il écrit. L'une de ces expériences que j'ai faites moi-même il y a de cela une génération, c'était en 1904, et que je n'avais jamais comprise depuis, mais sans cesse revenue en mémoire ces dernières années, sans que j'en puisse voir la raison. Mais de quoi s'agit-il ? Freud était alors en voyage avec son plus jeune frère. Il avait l'habitude, fin août ou au début de septembre, de partir en voyage avec lui pendant plusieurs semaines, dans une quelconque région d'Italie ou sur quelque côté de la Méditerranée. C'était une époque où prolonger ainsi l'été de plusieurs semaines par un dernier voyage était possible. C'était le monde d'hier. Autre temps, autre mœurs. Mais ne rêvons pas. Revenons à la lettre de Freud à Romain Rolland. Freud, cette fois-ci, raconte qu'ils avaient dû écourter un peu leur voyage compte tenu des affaires de son frère. Arrivés à Trieste, en Italie, ils avaient l'intention de se rendre à Corfou. Mais une de leurs connaissances vient à s'immiscer dans leurs plans et les décourage de se rendre sur cette île. « Qu'y feriez-vous à cette époque de l'année? Il fait tellement chaud que vous ne pourrez rien entreprendre. Allez donc plutôt à Athènes. Le vapeur de la Lloyd part cet après-midi. Il vous laissera 3 jours pour visiter la ville et il vous reprendra au retour. Ce sera plus agréable et plus avantageux. » Voici ce que leur conseille donc l'homme de Trieste. Une fois seuls, les deux frères examinent cette possibilité, mais tout en étant tous deux d'une humeur maussade. Ils ne sont pas du tout convaincus par le projet. Ils pensent qu'on ne les laissera pas entrer en Grèce sans passeport. Pourtant, lorsque les guichets ouvrent, ils vont ensemble prendre leur billet pour se rendre à Athènes sans même évoquer leur décision. Freud le note. Cette conduite était vraiment très étrange. Les voilà donc qui suivent en silence la recommandation qui leur a été faite et qu'ils consentent à changer leur programme. Mais arrivés en Grèce, parvenus à Athènes, découvrant l'Acropole, Freud éprouve un drôle de sentiment. Contemplant l'Acropole pour la première fois de sa vie, il se dit « Ainsi, tout cela existe donc vraiment, comme nous l'avons appris à l'école. » C'est une sorte de sentiment d'étrangeté qui l'envahit, comme s'il ne parvenait pas à croire qu'il était vraiment là. À Athènes, dans la ville mythique du fondement de la civilisation grecque, devant le temple de l'Acropole, là, vraiment, en chair et en os. Ne pas arriver à y croire et ne pas arriver non plus à se laisser émouvoir par la splendeur de l'Acropole. cette pensée qui lui vient, pensée étrange. Tout cela existe donc vraiment, comme nous l'avons appris à l'école ? Cette pensée-là semble atténuer le choc esthétique et subjectif qu'il aurait pu éprouver du fait d'y être, pour la première fois à 48 ans, avec son frère. Freud s'interroge alors sur ce sentiment d'incroyance, sur cette drôle d'expérience qui fait qu'il se sent lui-même comme dédoublé. Dédoublé entre celui qui est et celui qui se dit « Cela existe donc vraiment et pas seulement dans les livres. » Tout se passe comme s'il ne voulait pas vraiment croire à ce qu'il vit, comme s'il ne voulait pas vraiment en profiter. Après la mauvaise humeur, voilà donc la mise à distance et l'incroyance. Mais que lui arrive-t-il ? Qu'est-ce qui fait qu'il ne parvient pas à contempler ce qu'il voit et à accuser subjectivement la réalité de cette expérience ? Freud se plonge alors dans l'énigme qu'il est devenu pour lui-même à cet instant. Dans sa lettre à Romain Rolland, qui s'intitule « Un trouble de mémoire sur l'acropole », Freud tente d'interpréter ce qui lui est arrivé 30 ans plus tôt et qu'il n'a jamais oublié. C'est comme si à ce moment-là, il avait fait l'expérience d'un dédoublement en lui-même entre deux personnes. Une personne qui fait comme s'il fallait soudain croire à quelque chose à quoi elle n'avait jamais cru, et une autre personne qui s'étonnait de cette incrédulité puisque le paysage de l'acropole n'avait jamais fait l'objet d'aucun doute pour elle. Pourquoi ne parvient-il pas à vivre l'événement ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y est pas vraiment et qu'il ne veut peut-être pas y être ? Peut-être que cet étrange dédoublement n'est qu'une façon d'indiquer la différence entre voir quelque chose de ses propres yeux et ne connaître cette chose que par des lectures ou par oui-dire. C'est l'hypothèse que Freud émet un temps. Peut-être qu'enfant, découvrant l'acropole dans les livres d'histoire, il a douté de l'existence réelle de ce lieu mythique, et peut-être que finalement c'est un doute infantile qui lui revient à 48 ans. Peut-être que cette question, l'acropole, ça existe ? Ou c'est seulement dans les livres ? Peut-être que cette question, il se l'est vraiment posée sur les bancs de l'école. Mais Freud écarte cette piste. Il se souvient n'avoir jamais douté de l'existence d'Athènes et de l'acropole. Il se souvient qu'il a toujours cru que cela existait quelque part. Fausse piste, donc. Il s'agit d'autre chose. Le sentiment d'étrangeté le renvoie à quelque chose de plus profond, de plus souterrain, de plus méconnu. Ce qui lui semble le plus déroutant dans cette expérience, c'est que de voir l'acropole, enfin, était une promesse de plaisir. Pourquoi déjà les deux frères étaient-ils de mauvaise humeur à l'idée de changer leur plan ? À nouveau une fois sur place, pourquoi se montrer sceptique, dit Freud, à l'égard de quelque chose qui promet un intense plaisir ? Freud pressent que dans cette expérience d'incroyance, de scepticisme et d'étrangeté, il y a comme un refus de réaliser quelque chose qu'on a pu désirer. Comme ces êtres qui échouent à cause de leur succès, devant le succès. Il se passe quelque chose de l'ordre de « on n'a pas droit à ce bonheur, ce n'est pas pour nous ». Nous ne pouvions pas croire que la joie de voir Athènes nous fût réservée, écrit Freud. Ce n'est pas donc qu'il a douté que l'acropole existait en vrai et pas seulement dans les livres, comme si l'acropole était une nouvelle Atlantide. Mais c'est qu'il a douté que jamais il pourrait y être. Freud enfant n'a jamais été traversé par l'idée qu'un jour, il aurait la chance d'être là, de voir l'acropole devant lui et de sentir que plus rien ne le sépare de ce spectacle.
C'est beau l'acropole sous le soleil, non ?
Mais c'est magnifique, magnifique.
Allez, marche.
Le sentiment d'étrangeté renvoie donc à cette croyance que jamais il n'aurait la chance d'y aller. Maintenant qu'il y est avec son frère, et que cela le ramène aussi à son enfance de se retrouver là avec son frère, voilà que son sentiment de déréalisation, son sentiment qui pourrait se formuler comme un « tout cela n'est pas vraiment réel », ce sentiment le rappelle à cette pensée. L'acropole, jamais je n'irai. Cela restera comme une image dans un livre d'histoire. Mais allons encore plus loin avec Freud. Pourquoi cette croyance que ce n'était pas pour lui, que ce n'était pas pour eux, que jamais le destin ne leur offrirait cette chance ? Freud s'étonne en même temps de cette pensée et de ce sentiment de déréalisation parce qu'il a toujours adoré les voyages. Freud aimait voyager. Et il a d'ailleurs souvent fait part des découvertes relatives à l'inconscient que lui ont permis de faire ses voyages. Freud aimait sans doute les divagations, les dépaysements subjectifs que produisent les voyages. Il y voyait certainement un facteur favorisant l'émergence de rêves nouveaux, de découvertes, de ressurgissement de souvenirs anciens, de réminiscences. Freud se souvient même, et il l'écrit dans sa lettre à Romain Rolland, qu'enfant, il pensait déjà au voyage qu'il voudrait faire. Il rêvait de ses échappées de son milieu familial, de ses fugues, de ses aventures que sont les voyages. Alors quoi ? Maintenant qu'il y est arrivé, maintenant qu'il a fait le voyage qu'il pensait que jamais il ne ferait, le voilà comme pris de court par ce sentiment de déréalisation, par ce refus de croire qu'il y est vraiment. Ce jour-là, sur l'acropole, j'aurais pu dire à mon frère « Te souviens-tu de notre jeunesse ? Tous les jours, nous faisions le même chemin pour aller au lycée. Le dimanche, nous allions sur le Prater ou dans un coin de campagne que nous connaissions déjà si bien. Et maintenant, nous sommes à Athènes. Nous voilà sur l'acropole. Comme nous avons fait du chemin. » Cet échange qui n'a pas eu lieu entre Freud et son frère, cet échange qui aurait pu avoir lieu, lui rappelle ce qui est venu en tête à Napoléon le jour de son couronnement. Napoléon s'adresse à son frère et lui dit « Que dirait monsieur notre père s'il pouvait être ici maintenant ?» C'est cette phrase qui revient à Freud. « Que penserait père de tout ce chemin parcouru ?» L'arrivée sur le mont de l'Acropole vient signifier métaphoriquement le chemin parcouru par Freud dans l'existence, le succès, le fait d'y être arrivé enfin. Lui, fils de négociant, lui, fils d'un homme qui n'a jamais vu l'Acropole, qui n'a jamais voyagé en Grèce, lui, il est là aujourd'hui avec son frère. Face à ce lieu où il pensait ne jamais avoir la chance de pouvoir aller. voilà que lui, il ne peut maintenant en profiter, car il ne peut y croire. Freud déchiffre finalement dans cette mauvaise humeur qui a saisi les deux frères, alors qu'ils obéissaient aux conseils promulgués par leur ami de Trieste, alors qu'ils changeaient leur plan comme soumis à un commandement inconscient, comme un « tu dois aller à Athènes ». Freud déchiffre donc cette mauvaise humeur comme le premier temps de cette expérience de refus d'y croire et de refus d'en profiter vraiment. La mauvaise humeur indiquait déjà que les deux frères se faisaient violence. Ils forçaient quelque chose en eux en changeant leur plan. Mais quoi ? Freud peut le dire maintenant qu'il est vieux lui-même et qu'il a atteint l'âge que son père avait quand il est mort. Être à Athènes, là, ensemble, tous les deux, c'était aussi surpasser le père, lui en mettre plein la vue, lui dire « Tu vois, père, où nous en sommes ? Tu vois le chemin que nous avons parcouru depuis notre enfance, depuis notre petite vie de fils de négociant juif ?» Tout se passe, écrit Freud, comme si le principal dans le succès était d'aller plus loin que le père. Et comme s'il était toujours interdit que le père fût surpassé. Les deux frères étaient donc pris d'un sentiment de piété à l'égard de leur père. Voilà ce qui vient à Freud. Dépasser le père suscitait en chacun un conflit. C'est comme si leur amour pour le père devait rester plus fort, et qu'en ne profitant pas de ce moment ensemble à Athènes, de cette expérience de découvrir l'Acropole en vrai, eh bien ils restaient les fils de leur père. De ce père qui n'a pas fait d'études, de ce père qui n'a pas appris dans les livres ce qu'était la civilisation grecque, de ce père qu'ils ont aimé et dont ils veulent aussi conserver le souvenir d'un grand homme. Voilà comment Freud nous dévoile la cause secrète, inconsciente, mystérieuse, qui est à l'origine de ce sentiment d'incroyance. Ne pas profiter de l'Acropole, c'est ne pas en profiter sans lui, sans la présence du Père, sans son regard. C'est dire au fond, ce chemin, nous l'avons fait, mais nous ne voulons pas en jouir. Nous restons les fils de celui qui nous a élevés. Nous ne pouvons pas jouir de l'avoir surpassé. Voici la racine secrète de ce sentiment d'étrangeté que Freud a éprouvé, de ce sentiment qui fait que quelquefois, nous ne pouvons pas jouir de ce que nous avons accompli. Car le réel a comme dépassé nos espérances et outrepassé ce que nous pensions être notre destin. On dit quelquefois aussi aujourd'hui « transfuge de classe ». Eh bien, l'expérience qu'a faite Freud, ce conflit qu'il a éprouvé en lui-même par rapport au fait de profiter de ce dont son père n'a jamais pu profiter, témoigne avant l'heure de ce transfuge de classe qu'était Freud. Ainsi s'achève ce cinquième épisode sur notre voyage au pays de l'inconscient.
France Inter présente son premier podcast interactif, L'inconscient, avec Clotilde Le Guil.
Dans un instant, je répondrai à vos questions. Mais avant, écoutons Malik Djoudi, Tempérament, sur France Inter.
Ample jean, J'aime la vie. J'aime les gens. Tant que mon tempérament se désiste des autres troubles entêtantes. Tant que mon tempérament
Je vous écoute.
Bonjour, je m'appelle Alexandre et je souhaiterais poser une question à Clotilde Le Guil. À travers votre lecture de la lettre de Freud à Romain Rolland, où il lui fait part du souvenir de ce qu'il a éprouvé sur l'acropole, vous proposez une théorie des ressorts inconscients de ce sentiment d'étrangeté, comme un refus de réaliser un désir, comme une impasse subjective, disons, devant le fait de pouvoir être là où on le désire. Or, et ce sera l'objet de ma question, il me semble qu'une telle expérience se produit parfois aussi dans les rêves. Mais là, c'est souvent réellement qu'on ne peut pas aboutir là où on le désire. Par exemple, il m'arrive de me retrouver dans mes rêves en situation de ne pas réussir à me rendre là où je l'entreprends. Parfois, ça m'angoisse. Quand l'enjeu est dans le rêve de fuir devant un danger, par exemple, et que je suis comme retenu. Donc voici ma question, si le rêve est accomplissement de désir, selon la théorie de Freud, comment comprendre la nature de cette étrange impasse que l'on rencontre parfois dans le rêve ? J'aimerais avoir votre éclairage sur ce phénomène.
Merci Alexandre pour votre question et pour le témoignage que vous donnez de votre rapport à vos propres rêves. En vous écoutant finalement, je me suis dit qu'il était important aussi de resituer le rêve dans l'expérience de l'analyse. Et au fond, les rêves que l'on produit dans une analyse, on les produit aussi à un certain moment de notre parcours analytique.
politique. Et ce que vous disiez sur ces rêves qui peuvent manifester une forme d'impuissance à rejoindre le lieu de son désir ou une difficulté à avancer, eh bien, on peut aussi les considérer comme des indications de la façon dont on fait l'expérience du parcours analytique. On peut les considérer comme des métaphores, au fond, de l'analyse elle-même. On a envie que ça avance, mais au fond, on est aussi confronté à une angoisse, l'angoisse de ne pas savoir où cela va nous mener, l'angoisse de ne pas savoir ce que l'on va rencontrer. Et donc, peut-être pour finir, je répondrai à votre question en rappelant que pour Lacan, il y a vraiment une articulation entre l'angoisse et le désir, hein, et le fait que rejoindre son désir implique de franchir l'angoisse.
Bonjour, je m'appelle Clotilde et j'ai une question pour Clotilde Le Guil. À propos du trouble de mémoire sur l'acropole dont vous avez parlé, Freud a donc vécu toute sa vie sans se poser véritablement la question de savoir pourquoi il avait été déçu en unisson avec son frère face à un tel monument. En repensant à la fin de sa vie à cette anecdote étrange, il finit par comprendre, vous l'avez dit, qu'il avait surpassé le père puisqu'il avait été là où son père n'avait pas été. Il y repense quand son père est mort, devenu père lui-même, et donc sans plus cette barrière symbolique du père avant lui. Pourrait-on donc parler de résistance afin de refouler son désir inconscient qui serait de dépasser le père? Je vous remercie.
Merci Clotilde pour cette question qui est très précise. Effectivement, on peut dire qu'il y a un désir infantile qui est un désir de l'emporter sur le père, un désir à la fois d'être comme lui et de l'emporter sur lui, qui est un désir que Freud définit comme le désir oedipien de l'enfant. Mais ce qui est intéressant dans le témoignage de Freud, dans cette confidence qu'il fait à Romain Rolland, c'est au fond que cet épisode, c'est pas qu'il ne l'avait pas interrogé, c'est qu'au contraire, il était resté intact en lui comme une question, comme « mais qu'est-ce qu'il nous est donc arrivé à mon frère et à moi pour que nous ne puissions pas ensemble nous réjouir de ce moment ?» Et c'est au moment où lui, finalement, est un vieil homme, au moment où il atteint l'âge que son père avait quand il est mort, qu'il peut en quelque sorte affronter hein, quelque chose de ce désir qui a été aussi le sien de parcourir un chemin qui le conduirait au-delà de son père.
France Inter, l'inconscient.
Je poursuis avec vos questions.
Avec Clotilde Le Guil.
Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Je souhaiterais faire un commentaire et poser une question à Clotilde Le Guil. Tout d'abord, merci. Vous avez dit que dans un rêve, tout peut sembler réel et que dans la réalité, l'étrangeté peut surgir au cœur du familier. Alors justement, l'étymologie de Unheimlich fait aussi référence à ce qui fait peur dans ce qui est familier. Il y a quelque chose de l'ordre du secret qui devait rester secret et qui est révélé, qui sort de l'ombre, et qui fait penser aussi à la place du refoulement en psychanalyse. Alors ma question est la suivante, en quoi la psychanalyse elle-même est-elle unheimlich? Merci.
Ah, merci Emmanuel, c'est vraiment une bonne caractérisation de la psychanalyse de dire que l'expérience elle-même est en effet unheimlich, c'est-à-dire étrangement inquiétante. À la fois, quand on commence une analyse, évidemment, on cherche, disons, une solution pour ne plus souffrir, une solution pour conjuguer sa vie avec le bonheur, en quelque sorte. Et en même temps, ce qu'on va rencontrer dans une analyse, c'est pas tout à fait quelque chose de l'ordre de, disons, d'un bonheur. Ce qu'on va rencontrer dans l'analyse, c'est d'abord, en effet, effet une expérience de l'inquiétante étrangeté et un dépaysement subjectif. Voilà comment je définirais l'expérience de la psychanalyse. Elle est toujours dépaysante et on pourrait dire que elle est toujours dépaysante en son époque. Et au XXIe siècle, la psychanalyse reste une expérience qui est radicalement dépaysante par rapport à tous les discours ambiants qui nous proposent une certaine façon de parler de nos conflits, de notre souffrance. Hein. Et la psychanalyse, elle propose. Pourquoi est-ce qu'elle propose un autre discours? C'est parce qu'au fond, elle invite à explorer l'étrangeté de sa propre parole, l'obscurantisme propre à la parole, comme disait Lacan. Et c'est à travers cet obscurantisme propre à la parole, c'est-à-dire ce qu'il peut y avoir d'énigmatique, de bizarre dans ce que je dis, que je vais pouvoir dénouer quelque chose de mon symptôme.
Bonjour, je m'appelle Françoise et je souhaite poser une question à Clotilde Le Guil. Ce qui perturbe Freud, ce qui l'empêche de jouir de l'instant présent, c'est que visiter l'acropole fait de lui, dites-vous, un transfuge de classe. Seriez-vous d'accord pour dire que cette simple mauvaise humeur permet d'interroger ce qu'il est rarement, à savoir la difficulté subjective à réussir socialement ? Je vous remercie de votre réponse.
Françoise, je vous remercie de votre question. Et il est vrai que il est intéressant de noter que finalement Freud nous montre dans ce souvenir, dans cette lettre qu'il écrit à Romain Rolland, il nous montre que cette mauvaise humeur faisait vraiment pour lui énigme et qu'il y avait quelque chose à interroger là en rapport avec l'inconscient. Et effectivement, on aperçoit que l'inconscient, eh bien, peut aussi s'articuler à partir de l'expérience d'éprouver des affects qui sont en quelque sorte surprenants par rapport à ce que nous traversons. Et finalement, ce que vous dites dans votre question, c'est que la mauvaise humeur ici, vous reformulez ça comme ça, elle aurait à voir avec cette question de la réussite sociale et du transfuge de classe. Moi, c'est vrai que quand j'ai relu ce texte de Freud, finalement, j'ai pensé à ce que disait Annie Ernaux, parce qu'à l'époque de Freud, on parlait pas de transfuge de classe, mais finalement à ce que dit Annie Ernaux sur ce sentiment de s'être exilé au fond de ce lieu, de ce territoire, de son enfance, de la Normandie, de son milieu social. Et il y a là, chez Freud déjà, quelque chose de cet ordre qui finalement peut aussi être interrogé du point de vue de l'inconscient. Quelque chose que Freud éprouve comme d'une trahison, hein, d'un sentiment d'être allé trop loin, en quelque sorte, par rapport au lieu d'où il vient.
Merci pour ce contenu très intéressant. J'avais deux impressions en écoutant cet épisode. Le premier, c'est par rapport au sentiment d'étrangeté. Pour moi, il commence vraiment au moment où il décide de prendre un billet pour Athènes sans en parler. Peut-être que s'ils avaient échangé, cet épisode n'aurait pas eu lieu. Et deuxième chose, ça concerne l'interprétation que Freud arrive à faire sur lui-même, qui est quand même assez... j'allais dire bluffante. Finalement, on dit toujours que ça a été le premier psychanalyste parce qu'il a réussi à s'analyser lui-même. Et là, on voit bien qu'il arrive vraiment à aller au-delà de ses barrières, de ses résistances. Merci, à bientôt.
Oui, Freud a été le premier psychanalyste et au fond le seul à devoir s'analyser lui-même. Mais ce que je suis d'accord avec vous, son interprétation, elle est bluffante. Elle est bluffante parce que il franchit quelque chose dans cette lettre, quelque chose aussi de la propre énigme qu'il a été pour lui-même lors de ce voyage avec son frère. Mais peut-être que il ne faut pas oublier que s'il peut interpréter de façon inédite alors qu'il est très âgé, cet épisode qui s'est produit de nombreuses années avant dans son existence, c'est aussi parce qu'il écrit à Romain Rolland. C'est-à-dire que Freud avait aussi toujours besoin d'avoir un point d'adresse, d'avoir un partenaire, finalement, non pas avec qui il s'analysait, mais à qui il pouvait rendre compte. Et on voit dans cette lettre, c'est ce qui est très touchant, qu'il y a aussi vraiment un transfert de Freud sur Romain Rolland et sur ce qu'a représenté Romain Rolland à ce moment-là dans la culture européenne.
Bonjour Clotilde Leguil, je m'appelle Eloïna. Tout d'abord, je voulais vous dire le plaisir d'écouter votre émission sur les rêves. Tout d'un coup, on voit Freud se promenant dans une ville italienne ou à l'acropole d'Athènes, en éprouvant ce sentiment d'étrangeté. Cela me fait penser que quand j'avais 14 ans, j'ai dit à ma mère, je vais parler français et je vais connaître la France. Ma mère m'a regardée en disant, tu as des drôles d'idées, ma fille. Je me souviens encore aujourd'hui de ce sentiment d'heureuse incrédulité de voir la Tour Eiffel clignoter pour la première fois, 20 ans après ce désir surgit de je ne sais d'où. Suis-je réellement là devant cette tour immense? Mais revenons à l'expérience éprouvée par Freud de cette inquiétante étrangeté. Pourrait-on dire que, en adressant sa lettre à Romain Rolland, cela a permis à Freud de cheminer vers son étrangeté? Cette citation, j'ai reprise de votre livre « Je, une traversée des identités ».
Merci Eloïna. Le simple fait de vous entendre nous dépayse aussi de par votre accent qui, si je ne me trompe pas, est brésilien. Et c'est très, très émouvant d'entendre finalement ce qu'a représenté pour vous ce voyage à Paris, le fait de pouvoir cheminer jusqu'en Europe, jusqu'en France, jusqu'à Paris, à vous retrouver devant la Tour Eiffel qui clignote, un peu comme en effet Freud s'est retrouvé devant l'Acropole en pensant que jamais il ne la verrait de ses propres yeux. Oui, j'aime beaucoup ce que vous dites, enfin votre question finalement qui porte sur le fait que Freud, même très âgé, même une fois qu'il a au fond pu déployer toute son invention, sa théorisation de la psychanalyse, eh bien il continue lui-même de s'analyser, il continue d'interroger sa propre étrangeté. Et là, Freud nous donne vraiment, au fond, une idée de ce qu'est aussi la position du psychanalyste. Le psychanalyste n'est pas dans une position de maître où il saurait, au contraire, le psychanalyste est celui qui reste toujours interrogé lui-même par ses propres rêves, par sa propre étrangeté et qui ne recule pas devant le fait d'interpréter ces phénomènes de l'inconscient.
Merci pour vos questions et merci à Rémi Sistiaga à la technique, Valentine Chedebois pour le choix du disque, Franck Olivard qui récolte vos questions et Audrey Ripouille à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Caroline Eliachef. Vous pouvez d'ores et déjà écouter son podcast et lui adresser vos questions sur notre page internet L'Inconscient sur franceinter.fr ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 28 mai pour poursuivre ensemble ce voyage au pays de l'inconscient.